France Culture. Abdelatif Lahabi, bonjour.
Bonjour.
Quatrième temps de ces Aboie Nues qui en compte 5, je le rappelle. On vous a laissé à la sortie de prison après 8 ans et demi passés dans les geôles marocaines. On est en 1980. Pour ce quatrième temps, je voudrais vous proposer de parler de 3 thématiques. Le rapport à l'exil qui fut le vôtre, parce qu'en 1985, vous avez dû partir. Vous allez nous raconter dans quelles circonstances et venir en France. Votre rapport au Maroc depuis lors. Et puis la traduction, parce qu'on a dit que vous étiez un grand traducteur. Donc on va parler traduction aussi dans cet épisode. Alors déjà, en 1985, Abdelatif Lahabi, vous avez dû partir. Je le dis comme ça, je ne sais pas si c'est que vous avez choisi de partir ou si c'est que vous avez dû vous exiler. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions et pour quelles raisons ?
Non, j'ai été obligé de partir. Je l'ai fait même en catimini, en quelque sorte, dès que j'ai pu avoir mon passeport, parce qu'il a fallu batailler pendant 4-5 ans avant d'avoir un passeport. Et à l'époque, vous savez, c'est curieux, un passeport ne pouvait pas s'obtenir comme cela sans l'aval du chef de l'État, pratiquement. Bon, je l'ai eu ce passeport et j'ai profité d'une invitation qui m'a été faite par une organisation suisse pour faire un bilan de santé. Et donc, je suis parti pour ne pas revenir.
La France, c'était un choix parce que là, vous êtes parti pour une organisation suisse, mais vous êtes allé en France.
C'était un choix.
C'était une évidence, la
obligé.
France.
Obligé. Je ne voyais pas où je pouvais aller. J'avais des fascinations qui auraient pu conduire à une toute autre vie. Par exemple, j'avais en prison appris quelques rudiments d'espagnol et je me suis découvert progressivement une véritable passion pour l'Espagne et notamment pour l'Andalousie.
Votre mère était originaire d'Andalousie.
Premier choix qui aurait pu se concrétiser. Je serais peut-être devenu un écrivain de langue espagnole.
Qui sait ?
Oui, qui sait ? J'avais aussi une fascination pour le Liban, parce que en 1970, Adonis, le poète syro-libanais, avait organisé la première rencontre des poètes arabes, et il m'avait invité. Et j'ai découvert un pays, une ville, Beyrouth, qui m'a complètement fasciné. Toute l'intelligentsia arabe était là, ça discutait partout dans les cafés, on refaisait le monde, j'étais absolument ébloui. Et notamment par cette société pluriethnique, les chrétiens, les musulmans, les sunnites, chiites, les alaouites, les ceci, les cela, 20 religions différentes qui coexistaient malgré tout avec les problèmes qui se sont exacerbés par la
oui,
suite.
En 1980-85, la guerre est là.
Au moment où je suis allé à Beyrouth, je découvre un pays où le fait d'être arabe et de parler français et d'écrire en français ne gênait personne. Alors que au Maghreb, par exemple, la question de la langue était très sensible. Au Maroc, on a eu quelques petits problèmes. Malgré tout, quand on a créé la revue Souffle, c'était un peu mal vu parce qu'on utilisait la langue du colonisateur. Tout cela, il a fallu batailler pour faire admettre aux intellectuels arabes les plus ouverts, disons, le fait que d'écrire en français, c'était normal. Le plus important, c'était qu'est-ce qu'on avait à dire en français, en arabe ou dans une autre, en berbère, c'est-à-dire en langue amazigh et autres. Voilà comment ça s'est passé, l'exil pour moi, le départ, disons. Mais ce qui m'importait, de toutes les manières, c'était que... je devais partir absolument, parce que j'avais besoin véritablement d'écrire sans avoir un censeur à l'intérieur de la tête. Donc écrire dans des conditions réelles de liberté. Parce que quand je suis sorti, bon, je n'avais pas de travail, tout simplement. Je pouvais pas travailler, je pouvais pas continuer à écrire ce que j'avais envie d'écrire. Il y avait toujours des risques, malgré tout. J'avais eu une expression comme quoi, bon, au Maroc, on sort de la prison, de la petite prison, et on se retrouve dans la grande. Étant donné que dans la grande prison, il y a justement ces atteintes à la liberté.
Le censeur dont vous parlez, Abdelatif Labi, était dans votre tête. Il n'était pas justement à l'extérieur.
Je suis hors de prison. J'écris, mais bon, je suis obligé de tenir compte de la réalité dans laquelle je me trouvais. Donc, même si je crois avoir très peu exercé de l'autocensure, malgré tout, j'ai pris des risques. Par exemple, quand j'étais en prison, j'ai fait publier un livre qui s'intitule « L'histoire des sept crucifix de l'espoir » sous un pseudonyme, Ali Ghassan. Mais à ma sortie, je l'ai publié sous mon vrai nom.
Ce livre dans lequel vous vous mettiez dans la peau des exécutés,
oui,
qui avaient été condamnés à mort,
oui,
sept personnes, oui, hein, qui avaient été condamnées à mort, et vous vous mettiez dans la peau de ces personnes condamnées à mort, parce que vous-même, vous aviez été dans,
oui,
le couloir de la mort.
Oui, c'est un moment
où
j'étais confiné dans le quartier des condamnés à mort. Donc, bon, il y avait ce malaise qui était là. Ce malaise, pas seulement pour moi en tant qu'écrivain, mais en tant que citoyen, ou projet de citoyen, parce que dans ce Maroc-là, on n'était pas des citoyens, on était des sujets. Et justement, moi je refusais ce statut de sujet, je voulais être un véritable citoyen, pour que j'écrive comme un homme libre, comme un citoyen, disons, eh bien... il fallait prendre le large.
Ce large, vous l'avez pris pour venir donc en France, Abdelatif Lahabi. En France, à Créteil, assez directement Créteil, je crois, où vous vivez depuis 40 ans. Nous parlons ici dans un appartement de Créteil. Vous en parlez vous-même dans le livre Imprévu, par exemple. Il y a,
oui,
des pages sur la ville de Créteil. Créteil, ça a été un hasard. C'est là qu'on vous a accueilli à bras ouverts. Ça s'est passé,
oui, absolument. Vous savez qu'il y a eu un comité international pour ma libération. On faisait partie un certain nombre de personnalités, dont Jack Lang à cette époque-là. Et Jack Lang a eu la bonté à cette époque, justement...
Il était ministre de la Culture à l'époque.
Je ne sais pas.
Pas encore.
Oui, oui.
Ouais, il était
il
déjà.
A fait appel à un certain nombre de communes en France pour voir si une commune pouvait nous accueillir, moi et ma petite famille. Et c'est Créteil qui a répondu en premier. Donc on est venu à Créteil, simplement. Et depuis lors, on est resté fidèle à cette commune. Pour cette raison-là. Parce qu'ils ont été les premiers, justement, à donner un signe d'une certaine hospitalité française.
Dans le livre Imprévu que je citais, Abdelatif Lahabi, vous écrivez « L'exilé se reconnaît de loin à sa démarche. » Celle d'un oiseau aux ailes brisées se résignant à marcher, et de près à son regard balayant des images invisibles et se figeant par à coup sur un détail émergé de la réalité. Le plus souvent, il flotte dans ses habits, et porte, même pour sortir acheter du pain, un cartable en cuir assez usé. Il fume voracement, pas nécessairement par vice, par obligation on dirait. Chaque fois qu'il consulte sa montre, la déception se lit sur son visage et il lève les yeux comme s'il sollicitait du ciel un démenti à la succession terne des heures. Dans le métro, il se débrouille toujours, on ne sait comment, pour avoir une place assise dont rien ni personne ne pourra le déloger avant le terminus. Une fois « chez lui », entre guillemets, il lit de A jusqu'à Z les prospectus ramassés dans sa boîte aux lettres, puis s'assoit confortablement près du téléphone, le dos tourné à la fenêtre. C'était votre vie à l'époque, ça ?
Oui, j'essayais de brosser un portrait robot, je dirais, de l'exilé. Peut-être c'est pas tout à fait moi, mais c'était aussi un petit peu moi. Mais en fait, ce qu'on appelle l'exil, ça a été tout un processus. Je parle même plusieurs années après, ou deux ou trois décennies après, d'un roman de l'exil que j'ai vécu ou que j'ai écrit à ma manière. Il y a une grande différence entre l'exilé qui est fraîchement arrivé, qui est complètement déboussolé, qui sent comme un membre dont il a été amputé. Il est là, il lancine ce membre. Et puis, bon, progressivement, je crois qu'on arrive à, en tout cas moi, me concernant, on arrive progressivement à humaniser l'exil. Elle le considérait comme une des, comme en prison d'ailleurs, une des façons d'être dans la condition humaine. Après tout, quand on réfléchit, les millions, dizaines de millions de déplacés à travers le monde, c'est un phénomène tout à fait banal. Il y a un peuple de l'exil à travers le monde. Et donc, on découvre qu'on appartient à ce peuple-là. Ensuite, troisième, disons, station dans cette expérience, dans ce roman, on commence à découvrir quand même un certain nombre d'avantages de l'exil. À savoir que dans l'exil, on a pris une distance par rapport à la société d'origine, au pays d'origine, aux problèmes du pays d'origine, tout cela. Et puis, progressivement, on découvre que on n'existe pas seulement dans ce rapport au pays d'origine. On existe dans un rapport à l'humanité. Et on découvre aussi d'autres pays. Il m'a été donné, j'ai été invité un peu partout à travers le monde, en Amérique latine, en Afrique, dans les pays arabes, etc. Eh bien, je découvre mon humanité, ce continent humain qui dépasse de loin le pays étroit qui fut le mien. Donc, voilà, on découvre ces avantages-là. Et puis, quatrième station, c'est pas le Christ qui parle. On découvre aussi que, en tout cas c'est moi qui l'ai exprimé à un certain moment, je l'ai écrit, c'est ce que j'ai appelé le devoir d'exil. Il me semble que pour un écrivain, d'où qu'il vienne, d'un pays démocratique, ou du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, etc., je pense que il y a pour lui un devoir de, justement, sortir du cocon dans lequel il est né, dans lequel il a acquis un certain nombre de connaissances, tout cela. Il y a comme un devoir d'exil pour prendre de la distance par rapport à sa société d'origine, sa culture d'origine, sa langue d'origine. Donc, de découvrir combien cela transforme complètement l'être humain. On peut plus se concevoir à l'intérieur de frontières déterminées, donc à l'intérieur d'un pays. Donc on dépasse ce que Amin Maalouf exprime de façon merveilleuse dans son livre « Les identités meurtrières ». Parce que la question de l'identité se pose à un certain moment. Qui suis-je ? Souvent d'ailleurs, quand j'étais dans les rencontres que j'avais à faire ici ou là, etc., une des premières question qui fusait après ma lecture, la rencontre. Pourquoi écrivez-vous en français? Rêvez-vous en français? Pourquoi vous avez choisi d'écrire en français? Bon, d'abord, j'ai jamais choisi d'écrire en français. Le français s'est imposé à moi dans des conditions historiques qui sont celles de la colonisation,
oui, que vous avez
tout simplement.
Rappelé.
Est-ce que j'aime ou je n'aime pas cette langue? Bah, la question n'est pas là. C'est mon instrument de travail, c'est la langue qui me permet de m'exprimer, d'aller au fond de moi-même et d'inventer ma propre langue aussi. Parce que l'écrivain, c'est ça. C'est quelqu'un qui, à partir d'une langue déterminée, arrive à inventer sa propre langue.
Ça veut dire que vous êtes au moins deux, Abdelatif Lahabi, en vous? Souvent, vous parlez à votre double. Souvent, dans les récits, vous vous dédoublez. Dans Les Rites du Lion, qui est un texte paru en 1989 et qui parle de l'expérience de l'exil, eh bien, il y a deux personnes. Il y a le narrateur, poète, et puis il y a son double qui prend un peu le ton de la dérision et qui vient le chercher de temps en temps. C'est pas le seul texte où vous êtes deux.
Oui, je peux être même trois.
Parlez à votre double. C'est pour ça que je dis au moins deux.
Au moins deux, mais peut-être il y a trois.
Peut-être plus.
Oui.
Et c'est aussi parce que c'est une vie entre deux.
Oui, parce que nous prenons racine là où l'on vit. On acquiert des racines nomades. C'est pas seulement le rapport aux frontières, au pays, au machin, tout ça. Non, c'est le rapport à soi, à son propre corps. Et ça rejoint finalement l'état de poésie ou l'état d'écriture. Il y a un petit texte, justement, où je dis « Je rêve les yeux ouverts ». J'écris les yeux fermés. Et c'est vrai. Quand j'écris, j'ai l'impression d'être ailleurs. Donc j'ai les yeux fermés. Mais mes yeux s'ouvrent à l'intérieur de moi-même. Alors, et c'est pour cela que je parle aussi du moment où je me réveille. Et je trouve le texte là. Il a été écrit dans des conditions particulières. Qui a écrit ce texte? Qui m'a écrit? Et je crois que c'est une sensation que beaucoup d'écrivains, notamment les poètes, davantage que les autres, les romanciers par exemple, tout ça, mais les poètes vivent cet état-là.
Est-ce que c'est la même sensation que vous éprouvez quand vous traduisez l'écriture d'un autre, puisque vous êtes un traducteur, et notamment de poésie arabe?
Ou, je ne sais pas si on peut comparer comme cela, c'est autre chose, c'est une, à mon avis, je le dis pour gagner du temps, enfin, pour moi, le travail de traduction, c'est un travail de création en soi. C'est pas une science exacte que la traduction. Et donc c'est une recréation. Si ce n'est pas une recréation, à mon avis, ça ne va pas très loin. Mais il est évident que entre deux langues, il y a des distances énormes. Par conséquent, le véritable défi pour le traducteur, c'est comment rendre dans la langue d'arrivée quelque chose qui se passe dans la langue de départ. Et notamment, la chose essentielle, surtout quand il s'agit de poésie, comment rendre la musicalité et la musique propre à la langue d'arrivée. C'est-à-dire, bon, moi je traduis généralement de l'arabe vers le français, l'arabe est une langue extrêmement musicale, mais comment parvenir à obtenir un texte en français qui est dans la musicalité de la langue française? Voilà qui est important. Et puis, de prendre aussi certaines libertés. Moi, je pense qu'un poète, quand il traduit un autre poète, a le droit de prendre un certain nombre de libertés. Sans ces libertés-là, il n'y a pas de traduction véritable. C'est-à-dire une traduction qui va parler.
Vous voulez dire qu'il y a un petit peu de vous, par exemple, dans les traductions
absolument.
Des poésies
ah
de Mahmoud Darwish?
Oui, c'est un mariage. Oui, tout à fait, c'est un mariage. Parce que moi... Enfin, personnellement, j'ai ma propre langue en tant que poète. Quand j'ai traduit Mahmoud Darwish ou Samih al-Qasim ou l'Irakien Abdelwahab al-Bayati ou le Syrien Mohamed al-Marout ou les poètes palestiniens que je traduis de plus en plus, eh bien, bon, je les traduis en tant que poète et je crois que j'enrichis aussi. La traduction est un enrichissement de la langue vers laquelle on traduit. Il y a, dans la traduction, l'irruption, en français, par exemple, d'une autre langue. C'est pas seulement d'un sens, non. C'est aussi des structures, c'est aussi, une musicalité, un rythme différent, et qui, il y a une, comme cela, une osmose qui se produit, le texte d'arrivée, il parvient à transformer la langue vers laquelle on traduit.
Il existe, Abdel Latif Lahabi, à ce jour, 4 anthologies de la poésie palestinienne d'aujourd'hui, que vous avez donc...
D'hier et d'aujourd'hui.
D'hier et d'aujourd'hui. En plus, vous avez commencé, la première, je crois, date de 1970, donc vous vous y attelez depuis longtemps. Pourquoi celle-ci en particulier? Ça n'est pas les seuls auteurs que vous avez traduits, auteurs et autrices hein, d'ailleurs, mais... Peut-être une permanence avec cette poésie palestinienne. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-ci, pour vous?
Bon, j'ai une histoire, disons, avec la cause du peuple palestinien. J'ai découvert relativement tôt la poésie palestinienne de résistance, on l'appelait à l'époque. C'était dans les années 60. Elle était incarnée par Mahmoud Darwish, Samih al-Qasim, Tawfiq Zayad, etc. Donc j'ai commencé à traduire. Et j'ai l'impression d'avoir accompagné progressivement les Palestiniens dans la construction même de leur identité nationale, des éléments constitutifs de leur culture, de ce qu'ils apportaient à la littérature de langue arabe. Donc c'était une vraie aventure que j'ai accompagnée personnellement.
Parce que la poésie palestinienne est partie constituante de l'identité palestinienne.
Absolument, parce que bon, avant l'émergence de la poésie palestinienne proprement dite, les Palestiniens, bon, c'était une composante de l'empire ottoman. Il n'y avait pas une identité particulièrement affirmée de toutes les populations qui étaient soumises à l'ordre de l'Empire ottoman. Et, à mon avis, Je peux, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais il me semble que ce sont les écrivains et les poètes, notamment, qui ont jeté les bases de cette identité proprement palestinienne. Donc, la génération de Mahmoud Darwish a opéré ce travail-là. Pour moi, on pouvait parler de Palestiniens à partir de l'œuvre de Mahmoud Darwish. C'est assez rare dans l'histoire des peuples, que ce soit la poésie qui arrive à jeter les fondements de l'identité d'un peuple.
Entre 1980 et 1994, vous avez non seulement édité des traductions, des anthologies de la poésie, et pas seulement palestinienne, mais vous avez aussi publié des récits, Le chemin des Ordalies, par exemple, sur le choc de la liberté après la prison. On en parlait dans l'épisode précédent. Les rites du lion, sur l'expérience de l'exil. Des poèmes, Tous les déchirements, Le soleil se meurt. Et puis, vous avez aussi publié des textes pour le théâtre. Trois textes pour le théâtre. Le baptême chacaliste, Exercice de tolérance, Le juge de l'ombre. Vous n'avez pas seulement écrit Abdelatif Lahabi pendant ces 14 premières années. Vous avez aussi, bien entendu, entretenu un rapport particulier avec ce que vous appelez votre cher pays, c'est-à-dire le Maroc. Vous avez même fait une tentative de retour au Maroc, dans l'idée d'y fonder une maison d'édition et un magazine pour la jeunesse, et cette tentative s'est soldée par un échec dont vous avez tiré un texte qui s'appelle « Le spleen de Casablanca », et que vous présentez comme un carnet de déroute. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, ce que j'ai appelé tout à l'heure le roman de l'exil, il y a eu au milieu du guet ce besoin impérieux de rentrer, d'être de nouveau au Maroc, d'autant plus qu'il y avait quelques fissures qu'on avait constatées dans le système s'ouvrait un petit peu, le tyran était vieillissant et même enfin était affaibli considérablement. Donc, certaines ouvertures, j'ai cru, du moins, qu'il y avait un certain nombre d'ouvertures et que c'était possible d'essayer de faire quelque chose. Et bon, c'était pas rentrer pour rentrer au Maroc. Moi, je voulais rentrer pour faire, pour piloter, disons, un grand projet culturel avec au centre de ce projet une grande maison d'édition, une maison d'édition généraliste, mais aussi très pointue sur certains plans. Par exemple, je ne citerai que cet exemple-là. Entre autres, j'avais dans l'idée de faire traduire des œuvres littéraires, philosophiques, arabes classiques en arabe moderne. C'est comme, bon, vous savez, Montaigne ou Rabelais ont été traduits, parce que si on les lit dans le texte original, on comprend même pas grand-chose aujourd'hui. Rien de tel n'a été fait dans le monde arabe. Par conséquent, moi, mon ambition était de mettre à la portée de tous ces grands textes philosophiques, littéraires, tout cela en langue arabe moderne. Voilà, je m'en arrête là parce que il y avait tellement d'autres projets. J'avais envie, par exemple, de faire une sorte de que sais-je marocain. Bon, ça a tourné en rond, ça n'a pas fonctionné parce que bon, j'ai eu des promesses de fonds de financement qui se sont avérées et n'ont pas
vide.
Abouti, disons. Et puis je me suis rendu compte que le pays n'avait pas véritablement changé, que la nature du système n'avait pas changé. Et j'avais l'impression à certains moments que bon, je m'étais fait piéger. Alors, et puis bon, après cette expérience. Et mon roman de l'exil s'est poursuivi avec ces dimensions dont j'ai déjà parlé. De découvrir que l'exil aussi a ses avantages, qu'il y avait un devoir d'exil, etc., etc. Et donc, à partir d'un certain moment, tout en gardant des liens, bien sûr, quand il m'arrive maintenant d'aller au Maroc, à Rabat, je me sens bien, mais je me sens mal aussi. C'est ça la question. Se sentir bien parce qu'on retrouve, non pas les odeurs, les parfums, non, c'est surtout la langue, à savoir la langue marocaine, populaire, que je retrouve. Mais je retrouve aussi la bonhomie, la gentillesse des Marocains, leur spontanéité. leur, à dire, le Marocain craque dès qu'il y a un petit mot d'humour, enfin, qu'on, et donc ce contact direct avec les gens les plus simples, qui me manque ici, par exemple, en France. J'habite dans cet immeuble, enfin, qui est sympathique, tout cela, calme, depuis près de 40 ans maintenant. Mais la plupart des gens qui habitent dans le même immeuble que moi, on ne dépasse pas le petit bonjour, bonsoir, bonne soirée, tout cela, on ne se connaît pas véritablement. Il est évident que si j'étais au Maroc, ça aurait été tout à fait différent. Par exemple, enfin, je vais dans un café depuis 30 ans. Le garçon qui me sert, jamais il ne m'appellera par bon nom. Monsieur Labi, ou qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui? Non, ça, c'est comme ça. Bon, être au Maroc, il y a le fait de se sentir bien, mais se sentir mal. Parce qu'on sait que toutes les choses pour lesquelles on a rêvé, pour lesquelles on a essayé de faire partager cette utopie qu'on a en soi, eh bien, rien de tout cela n'a été véritablement gagné. Il y a des bribes. Il y a des petites choses qui ont bougé, tout cela, je ne le nierai pas. Mais pas les fondements qui auraient permis à ce que ce Maroc devienne un état de droit, véritablement. Qu'il y ait une citoyenneté pleine et entière. Là, on n'est pas... Le minimum syndical n'y est pas encore. Donc, on se sent bien, on se sent mal. C'est comme ici. Je me sens bien, je me sens mal. C'est vrai.
Mais malgré tout, dans ce devoir d'exil dont vous parlez, le fait d'avoir tenté de retourner au Maroc et que cette tentative ait échoué, est-ce que vous diriez quand même, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous êtes passé d'un exil forcé à un exil choisi?
Non.
Quand même pas.
Maintenant.
Ça va pas jusque-là.
C'est-à-dire, je me situe autrement dans cette affaire-là. Je me sens appartenir à une partie de l'humanité dont la condition est celle-là. C'est cette humanité qui errante. Oui. Je suis l'arabe errant.
Et cet arabe errant que vous dites être aujourd'hui, Abdellatif Lahabi, a malgré tout peut-être un point d'ancrage qui est immuable, qui est invincible. Et ce point d'ancrage, c'est l'écriture, c'est la poésie, c'est ce que nous verrons dans le dernier épisode, l'épisode 5 à suivre. Épisode 5, la poésie est invincible. Merci et à demain.
Ben, à demain.
C'était À Voix Nue avec Abdellatif Lahabi, réalisation Assia Weber. Prise de son Hervé Dubreuil, chargé de programme à Voix Nue Daphné Abral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.